Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point, le programme suivant, le magazine culturel, et ensuite apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. La voix de l'Indonésie vous présente le journal d'aujourd'hui. Le président envisage de participer à l'ensemble de Noël 2016 à Sulawesi du Nord. Le gouverneur, le mémorium des tsunamis, un moment d'augmenter la sensibilisation catastrophique. La région de Purwakarta, le renforcement de sécurité à travers de Jatiluhur est nécessaire. Luhut Binsar Panjaitan, la rénovation de l'aéroport Sibisa commencera en 2017. La police nationale apprend le cas du recruteur de 3 Indonésiens en Syrie. Et voici le journal complet. Le président Joko Widodo est parti à Manado, à Sulawesi du Nord, pour assister à un ensemble de Noël 2016 à la régence de Minahasa. Le président et sa femme, Madame Iriana Widodo, ont décollé de la base de la force aérienne Halim Perdana Kusuma lundi à 16h30 en avion présidentiel Indonésie 1. Le lendemain, le président a fait une inspection au barrage Kuil, à la régence de Minahasa du Nord. Ensuite, le président a inauguré le projet d'infrastructure de la centrale électrique d'énergie géothermique Lahendong de l'unité 5 et 6, ainsi que la centrale électrique de l'énergie géothermique Ulubelu de l'unité 3 dans le district Tompaso à la régence de Minahasa. À l'après-midi, au bâtiment du Waleneto Tondano à la régence de Minahasa, le président et sa femme ont assisté à l'Ensemble national de Noël 2016 à laquelle environ 17 000 invitations ont participé. Le secrétaire du cabinet Pramono Agung, le ministre du Travail et du Logement public Basuki Hadi Mulyono, le chef du secrétariat présidentiel Darmansyah Jumala, le secrétaire militaire de la force aérienne Marshal Trisno Hendradi, le commandant de la sécurité présidentielle, Major Général Bambang Suswantono, les personnels présidentiels Sukardiri Nakit et Goris Mere, ainsi que le chef du bureau de protocole du secrétariat présidentiel Ari Satyawan, ont également accompagné le président et Madame Iriana dans le vol pour Manado. L'exécutif gouvernemental d'Aceh, Sudarmo, lundi à Banda Aceh a dit que le mémorium de 12 ans de tsunami d'Aceh était le moment pour mettre la sensibilisation des catastrophes naturelles au peuple. Cette déclaration a été dite pendant le mémorium à la mosquée Batur Rahim Ulelewe de Banda Aceh avec le thème « Être une meilleure nation en prenant conscience à la catastrophe naturelle ». Il a aussi expliqué que ce mémorium visait également à sensibiliser le peuple de prendre soin de l'environnement et s'apprendre à tout ce qui concerne la catastrophe naturelle. Selon lui, le monde reconnaît que le séisme et le tsunami qui a frappé Aceh en décembre 2004 étaient l'une des tragédies les plus déchirantes dans la civilisation humaine. Il a appelé toutes les communautés de la province, ayant une population d'environ 5 millions de personnes, de prendre une leçon de ces événements pour mieux s'organiser. La région de Purwakarta de Dimulyadi espère que la sécurisation des objets vitaux autour de Jetty Luhur soit resserrée après les événements du raid aux quatre suspects de terroristes là-bas. Lundi à Purwakarta, Dedi Mulyadi a suggéré que la société Jasatirta 2 de Jetty Luhur, en collaboration avec la police locale, augmenterait les patrouilles autour du lac ou du barrage Jetty Luhur. Au moins, selon lui, si la patrouille de sécurité est optimisée ou améliorée, on pourrait identifier les gens qui mènent des activités dans la région de Telour. En outre, il continuerait à pousser le contrôle d'installation des cages flottantes autour du barrage de Telour, car, a-t-il ajouté, la quantité de cages flottantes maintenant était déjà excessive. Ils atteignent environ 24 000 des cages flottantes, beaucoup plus nombreux de la capacité de tolérance d'environ 4 000 des cages flottantes. Le ministre de la Coordination Maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a ciblé l'amélioration de l'aéroport Sibisa à la région Toba Samosir à Sumatra du Nord, serait commencé au quatrième trimestre de 2017. Dans une conférence de presse lundi, le ministre a dit que le gouvernement poursuivait de continuer à mettre en œuvre un certain nombre de programmes de développement des infrastructures, comme la construction et l'amélioration des aéroports. Il a dit que le gouvernement était en cours de faire des développements de diverses infrastructures après la nomination du lac Toba, comme l'un des 10 meilleurs lieux touristiques en Indonésie. Le gouvernement vise 20 millions de touristes étrangers visiteront le lac Toba en 2019. Par conséquent, le gouvernement a besoin de la coopération avec toute la communauté pour maintenir et développer les zones touristiques en Indonésie. Le chef du bureau de l'information publique de la police nationale de l'Indonésie, brigade général Rikwanto, lundi à Jakarta a dit que la police nationale de l'Indonésie était en cours d'identifier le recruteur et le trafiquant de trois Indonésiens en Syrie. Il a expliqué que les trois Indonésiens ne connaissaient pas l'un des autres quand ils avaient été arrêtés en Syrie le 5 décembre 2016. Il a assuré que les Indonésiens sont recrutés par un grand réseau, malgré que le recrutement fut mené séparément. Les trois Indonésiens ont été arrêtés car ils étaient indiqués par les autorités locales de vouloir joindre en force pour combattre dans la guerre pour le pays qui est en cours d'être en conflit. Le trio était puis expulsé par l'aéroport Atatürk à Istanbul, Turquie. L'équipe spéciale de détachement 48 de la police nationale de l'Indonésie a immédiatement arrêté tous les trois pendant leur arrivée à l'aéroport Soekarno-Hatta, Tangerang du Sud, Banten, samedi le 24 décembre. Ils étaient menés directement à la prison du quartier général du commandement de la brigade mobile de la police nationale de l'Indonésie, à Kelapa II d'époque, Java West, pour subir un interrogatoire intensif. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui. Entre la tolérance et Bhinneka Tunggal Ika. Le mot tolérance vient du latin tolerare, qui veut dire laisser patiemment les choses. Donc, une large compréhension de la tolérance est une attitude ou un comportement de quelqu'un qui apprécie ou respecte les actions de chacun, bien sûr aussi longtemps qu'il ne dévie pas de la norme. À cet égard, les Indonésiens ont un slogan de nation Bhinneka Tunggal Ika. L'expression est dérivée de l'ancienne langue javanaise et est souvent traduite par l'expression diverse mais unité. Ce slogan est maintenant mis en évidence par la communauté, parce que le contenu de son sens était déjà plus loin et plus alarmant. La tolérance dans Bhinneka Tunggal Ika devient loin du comportement du peuple de l'Indonésie. Surtout quand il est relié à la religion, il est difficile pour la nation de mettre en œuvre une attitude tolérante. Il est compréhensible parce que la religion est la croyance de chaque individu. L'Indonésie a eu une expérience amère liée au conflit entre les religions. Par conséquent, les gens devraient faire attention quand on parle au sujet de la religion, soit leur propre religion, surtout s'ils relient aux autres religions. C'est merveilleux quand, il y a quelque temps, une religion tient ses fêtes religieuses. Divers éléments nationaux faisaient le respect mutuel, se sont retenus, se sont entraidés pour maintenir la sécurité et ne déclenchent pas les bouleversements qui ont entraîné des dommages de la nation. On peut sentir que la nation commence à tricoter en arrière le sens du contenu de la signification de la tolérance, si bien qu'il apparaît le sens de Bhinneka Tunggal Ika. Le peuple indonésien doit vraiment garder le sens du contenu de la tolérance et Bhinneka Tunggal Ika. Ce n'est pas seulement un slogan ou le jargon politique, mais il faut garder à l'esprit et mettre en œuvre dans le comportement de l'État et de la nation. Tout le monde en Indonésie, sans distinction de race ou de position, devrait maintenir la tolérance et l'unité nationale dans la diversité, de sorte que la République unitaire d'Indonésie reste intacte. C'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 décembre 1945, la création du FMI. Le Fonds monétaire international, ou FMI, est une organisation internationale indépendante et se compose de 188 pays. Cette organisation a été créée, entre autres, dans le but de renforcer la coopération monétaire mondiale, stabiliser les valeurs monétaires du monde, faciliter le développement et la croissance équilibrée du commerce international et développer l'emploi à la croissance économique durable et réduire la pauvreté dans le monde. Le 27 décembre 1949, les Pays-Bas ont reconnu l'indépendance indonésienne. La série d'événements se sont produits contre les Pays-Bas lors de l'agression militaire néerlandaise. 2. En Indonésie, le 19 décembre 1948. Dans cette agression, les Pays-Bas ont repris la capitale de l'Indonésie, à savoir Yogyakarta, et arrêté de figures importantes, entre autres Sukarno, Mohamed Hatta et Sultan Syahrir. La chute de la capitale du pays a fait la création de la République d'urgence de l'Indonésie à Sumatra, dirigée par Sharifuddin Prawiranegara. La résistance de l'armée et les gens ont commencé le 1er mars 1949 pour reconquérir Yogyakarta. Ensuite, il y a l'accord de Rumroyen le 7 mai 1949. L'attaque générale de Surakarta du 7 au 10 août 1949 et son sommet est lorsque les négociations à La Haye, les Pays-Bas, telles que la conférence de table ronde le 23 août à 2 novembre 1949. L'accord a abouti à un accord sous la forme de reconnaissance de la souveraineté indonésienne. Enfin, le 27 décembre 1949, les Pays-Bas ont reconnu l'indépendance de l'Indonésie qui a été signée au Palais d'Am, Amsterdam, les Pays-Bas. Le 15 août 2005, le gouvernement néerlandais reconnaît formellement que l'indépendance de facto de l'Indonésie a commencé le 17 août 1945. Le 27 décembre 2007, l'assassinat de Benazir Bhutto. La première femme élue à la tête d'un pays musulman, l'ancienne première ministre pakistanaise Benazir Bhutto, est tuée dans un attentat après une réunion électorale à Rawalpindi, près d'Islamabad dans le cadre de la campagne électorale au début 2008. Le 1er décembre 1988, Benazir Bhutto devient premier ministre du Pakistan. 20 mois plus tard, Benazir Bhutto a été renversé par le président du pays soutenu par le militaire Ghulam Ishaq Khan, qui a utilisé le 8e amendement de dissoudre le Parlement et forcé d'organiser une élection. Bhutto est réélu en 1993, mais a été rejeté 3 ans plus tard au milieu de divers scandales de corruption par président Farouk Laghari, qui a également utilisé les pouvoirs. Chers auditeurs et auditrices, voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
L'équipe spéciale de détachement 48 contre terrorisme avec la police de Java West ont réussi à annuler un acte de terrorisme en arrêtant 4 suspects de terrorisme à Kampung Umbruk, au village de Cibinong, le district Jatiluhur, la région Purwakarta, Java West, dimanche le 25 décembre 2016 à 9h heure locale. Dans son explication, le chef du bureau de l'information publique de la police nationale indonésienne, le brigade général Rikwanto, a dit que début des processus, l'équipe spéciale du détachement 48 arrivait à arrêter 2 suspects de terroristes nommés Ivan et Rizal. Ensuite, l'équipe a poursuivi 2 autres suspects en surveillant toute la région de Jatiluhur. D'après les 2 terroristes arrêtés, on a appris qu'il y avait 2 autres personnes qui se cachaient dans le barrage Jatiluhur. À 12h, l'équipe spéciale de détachement a attaqué la maison flottante au lac Jatiluhur. Là-bas, les 2 suspects de terroristes nommés Abu Sofi et Abu Faiz ont résisté en provoquant des contacts armés. Les 2 ont finalement été tués dans les tirs croisés. D'après les résultats du raid, la police n'a trouvé aucun explosif dans la cachette des 4 terroristes. Néanmoins, selon le chef de la police provinciale de Java, l'inspecteur général Anton Charlian, la police a trouvé des armes et une déclaration de volonté de devenir le candidat d'attentat suicide. La police n'a pas trouvé la raison de ces terroristes pour choisir la zone autour du barrage Jatiluhur comme leur cachette. Bien que les suspects des terroristes aient choisi la maison flottante, le chef de la police n'a pas mentionné Jatiluhur comme une zone suspecte de terrorisme. Mais si le barrage Jatiluhur a vraiment été la cible de ces terroristes, l'impact serait énorme. Il a dit que la cachette étant au-dessus du barrage était assez difficile à atteindre par les autorités. Ils ont également déguisé comme des fermiers des cages flottantes au milieu du barrage. Depuis le raid, la police a pensé que la répartition des tâches aux 4 personnages avait déjà fait. Selon le chef de la police provinciale de Java West, inspecteur général Anton Charlian, il y avait un modèle différent pour l'exécution de leur attentat. Les matières explosives seraient données aux exécuteurs quand ils rapprochent le jour de l'attentat. Il est soupçonné d'être la raison pour laquelle aucun explosif n'avait découvert dans les raids à Jatiluhur. Anton a expliqué à Abu Sofi et Abu Faiz sont soupçonnés d'être les candidats de l'exécuteur après la révélation de testaments qui se sont trouvés au milieu de la cachette. Selon le chef de la police provinciale de Java West, les 4 terroristes était encouragé par une personne d'une institution pénale, mais il n'a pas mentionné laquelle. Après le raid dans la région Jatiluhur, la police continuait son enquête à la résidence de chaque suspect, des terroristes, à Padalarang dans la région de Java Ouest. Par rapport au raid des terroristes à Jatiluhur, le président de la Chambre des représentants, Setia Novanto, a apprécié la performance de la police nationale indonésienne via l'équipe spéciale de détachement 88 pour la prévention des actions radicales telles que le terrorisme. Selon lui, l'acte de terrorisme ne sera que nuisible au peuple. Le raid, a dit-il, a montré que les groupes radicaux existent en Indonésie et ils sont très dangereux. En outre, Novanto a également rappelé aux gens à rester vigilants car le potentiel et la menace d'attentats de terrorisme sont toujours autour de nous. Le président Joko Widodo est parti à Manado, à Sulawesi du Nord, pour assister à un ensemble de Noël 2016 à la régence de Minahasa. Le président et sa femme, Madame Iriana Widodo, ont décollé de la base de la force aérienne Halim Perdana Kusuma, lundi à 16h30 en avion présidentiel Indonésie 1. Le lendemain, le président a fait une inspection au barrage Kuil, à la régence de Minahasa du Nord. Ensuite, le président a inauguré le projet d'infrastructure de la centrale électrique d'énergie géothermique Lahendong, de l'unité 5 et 6. Ainsi que la centrale électrique de l'énergie géothermique Ulubelu de l'unité 3 dans le district Tompaso à la régence de Minahasa. À l'après-midi, au bâtiment du Waleneto Tondano à la régence de Minahasa, le président et sa femme ont assisté à l'Ensemble national de Noël 2016 à laquelle environ 17 000 invitations ont participé. Le secrétaire du cabinet Pramono Agung, le ministre de Travail et du Logement Public, Basuki Hadi Mulyono, le chef du secrétariat présidentiel Darman Shah Jumala, le secrétaire militaire de la force aérienne Marshal Trisno Hendradi, le commandant de la sécurité présidentielle Major Général Bambang Suswantono, le personnel présidentiel Sukardiri Nakit et Goris Mere, ainsi que le chef du bureau de protocole du secrétariat présidentiel Ari Satyawan, ont également accompagné le président et Madame Iriana dans le vol pour Manado. L'exécutif gouvernemental d'Aceh, Sudarmo, lundi à Banda Aceh, a dit que le mémorium de 12 ans de tsunami d'Aceh était le moment pour mettre la sensibilisation des catastrophes naturelles au peuple. Cette déclaration a été dite pendant le mémorium à la mosquée Batu Rahim Ulelewe de Banda Aceh avec le thème « Être une meilleure nation en prenant conscience à la catastrophe naturelle ». Il a aussi expliqué que ce mémorium visait également à sensibiliser les peuples de prendre soin de l'environnement et s'apprendre à tout ce qui concerne la catastrophe naturelle. Selon lui, le monde reconnaît que le séisme et le tsunami qui a frappé Aceh en décembre 2004 étaient l'une des tragédies les plus déchirantes dans la civilisation humaine. Il a appelé toutes les communautés de la province, ayant une population d'environ 5 millions de personnes, de prendre une leçon de ces événements pour mieux s'organiser. Le régent de Purwakarta, Deddy Mulyadi, espère que la sécurisation des objets vitaux autour de Jatiluhur soit resserrée après les événements du raid aux quatre suspects de terroristes là-bas. Lundi à Purwakarta, Deddy Mulyadi a suggéré que la société Jasatirta 2 de Jatiluhur, en collaboration avec la police locale, augmenterait les patrouilles autour du lac ou du barrage Jatiluhur. Au moins, selon lui, si la patrouille de sécurité est optimisée ou améliorée, on pourrait identifier les gens qui mènent des activités dans la région de Jatiluhur. En outre, il continuerait à pousser le contrôle d'installation des cages flottantes autour du barrage de Jatiluhur, car, a-t-il ajouté, la quantité de cages flottantes maintenant était déjà excessive. Ils atteignent environ 24 000 des cages flottantes. beaucoup plus nombreux de la capacité de tolérance d'environ 4000 des cages flottants. Le ministre de la Coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a ciblé l'amélioration de l'aéroport Sibisa à la région Toba Samosir à Sumatra du Nord, serait commencé au quatrième trimestre de 2017. Dans une conférence de presse lundi, le ministre a dit que le gouvernement poursuivait de continuer à mettre en œuvre un certain nombre de programmes de développement des infrastructures, comme la construction et l'amélioration des aéroports. Il a dit que le gouvernement était en cours de faire des développements de diverses infrastructures après la nomination de Lac Toba comme l'un des 10 meilleurs lieux touristiques en Indonésie. Le gouvernement vise 20 millions de touristes étrangers visiteront le Lac Toba en 2019. Par conséquent, le gouvernement a besoin de la coopération avec toute la communauté pour maintenir et développer les zones touristiques en Indonésie. Le chef du bureau de l'information publique de la police nationale de l'Indonésie, brigade général Rikwanto, lundi à Jakarta a dit que la police nationale de l'Indonésie était en cours d'identifier le recruteur et le trafiquant de 3 Indonésiens en Syrie. Il a expliqué que les 3 Indonésiens ne connaissaient pas l'un des autres quand ils avaient été arrêtés en Syrie le 5 décembre 2016. Il a assuré que les Indonésiens sont recrutés par un grand réseau, malgré que le recrutement fut mené séparément. Les 3 Indonésiens ont été arrêtés car ils étaient indiqués par les autorités locales de vouloir joindre en force pour combattre dans la guerre pour le pays qui est en cours d'être en conflit. Le trio était puis expulsé par l'aéroport Atatürk à Istanbul, Turquie. L'équipe spéciale de détachement 48 de la police nationale de l'Indonésie a immédiatement arrêté tous les 3 pendant leur arrivée à l'aéroport Soekarno-Hatta, Tangerang du Sud, Banten, samedi le 24 décembre. Ils étaient menés directement à la prison du quartier général du commandement de la brigade mobile de la police nationale de l'Indonésie, à Klapadua d'époque, Java West, pour subir un interrogatoire intensif. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais présenter un plat typique de Nusa Tenggara West. Kela Lebo. Le lac de Lebo est l'un des principales zones touristiques à Sumbawa West, avec une superficie d'environ 752 hectares. Le plus grand lac dans la province de Nusa Tenggara West possède le potentiel de ressources naturelles pour l'économie des communautés environnantes, car ils sont utilisés comme lieux de pêche et pisciculture des eaux douces. L'approvisionnement en eau d'irrigation agricole, la source d'eau brute pour les ménages, ainsi que le potentiel de l'écotourisme. Comme la zone de l'écotourisme, le tourisme peut faire comme la pêche. Outre la pêche, les touristes peuvent également inviter la famille et aussi les amis pour profiter de l'air de la montagne, naturellement dans ce lac. Si vous voyagez au lac de Lebo, n'oubliez pas de goûter son plat typique, à savoir Kela Lebo. C'est l'aliment typique de Sumbawa West et Kela dans la langue locale signifie bouilli, et Lebo est le nom du lac. Kela Lebo définit ébullition ou la cuisson des poissons qui sont pris directement du lac de Lebo. Le lac de Lebo produit le tilapia, taves et le liège. Ces poissons sont cuits en aliment typique du lac Lebo. Le processus de cuisson est assez facile. Tout d'abord, l'oignon et l'aile sont coupés en tranches et ensuite sautés sans huile. Ajoutez l'assaisonnement qui a été écrasé, tel que le curcuma, la muscade, le piment rouge et l'oignon, y compris l'eau de tamarin. Après que l'eau soit bouillie, ajoutez les morceaux de poisson qui ont été nettoyés et recuits jusqu'à cuisson. La nourriture typique du lac Lebo est présentée dans un pot d'argile, ce pot recouvert de feuilles de bananier. Le bouillon est rempli de basilic, citronnelle et tranches de poivre vert, rouge et jaune, une pincée de tranches d'oignon rouge frit, et le goût de l'aliment est très très bon. Il est un mélange de saveurs salées, sucrées, acides et épicées. Pour maintenir la délicatesse de Kela Lebo, les commerçants choisissent de rester cuire en utilisant la friture en sol. Vous pouvez acheter ce plat à Warung, le mot indonésien qui désigne un petit restaurant familial. Vous pouvez commander une portion de Kela Lebo qui contient habituellement un demi-kilo de poisson jusqu'à un kilo de poisson. Pour commander Kela Lebo, vous pouvez ajuster la partie avec le nombre de personnes. Un demi-kilo de Kela Lebo peut être mangé par 3 jusqu'à 4 personnes. Le prix d'une portion de ce plat, environ 25 000 jusqu'à 35 000 rupiah. Kela Lebo peut être mangé avec le riz blanc chaud et d'autres menus typiques comme le plecing, le poulet talivang et poisson grillé. Chers amis, c'était notre programme Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Libur Panjang Akhir Pekan. Ou en français, on peut dire les vacances du long week-end. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Libur panjang akhir pekan. Libur panjang akhir pekan. En français, les vacances de long week-end. Kemana? Kemana? En français, où? Kali ini? Kali ini? En français, cette fois? Berencana? Berencana? En français, avoir le plan. Pergi, pergi. En français, aller. Walaupun, walaupun. En français, bien que. Seboutan. En français, nommé. Kota. En français, la ville. Hujan. En français, la pluie. Berlibur. En français, passer les vacances. Pesan. En français, réserver. Hôtel. En français, l'hôtel. Melalui. En français, par. Nyaman. En français, confortable. Pusat kota. En français, le centre-ville. Bersantai. En français, se détendre. Jalan pagi. En français, se promener au matin. Wisata culinaire. En français, tourisme culinaire. Terkenal. En français, célèbre. Écoute. En français, venir. Bersama. En français, ensemble. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Libur Panjang Akhir Pekan, ou en français, les vacances du long week-end. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Budi et Bayu. Hai Bayu, Libur Panjang Akhir Pekan, kamu mau kemana? Hai Bayu, libur panjang akhir pekan, kamu mau ke mana? En français, salut Bayu, où vas-tu pendant les vacances de long week-end? Kali ini saya berencana pergi ke Bogor. En français, cette fois j'ai le plan d'aller à Bogor. Walaupun Bogor terkenal dengan sebutan kota hujan, saya tetap mau berlibur ke sana. Walaupun Bogor terkenal dengan sebutan kota hujan, saya tetap mau berlibur ke sana. En français, bien que Bogor soit nommé la ville de pluie, je vais toujours y passer les vacances là-bas. Apakah kamu sudah pesan hotelnya? En français, tu as réservé un hôtel? Saya sudah pesan hotelnya melalui online. Saya sudah pesan hotelnya melalui online. En français, j'ai déjà réservé l'hôtel en ligne. Hotelnya kelihatannya nyaman. En français, l'hôtel a l'air confortable. Letaknya juga di pusat kota. En français, et il se trouve au centre-ville. Di Bogor kamu mau kemana saja?
Di Bogor, kamu mau ke mana saja?
En français.
Et à Bogor, tu veux aller où?
Selain bersantai, saya mau jalan pagi di Kebun Raya Bogor yang terkenal.
Selain bersantai, saya mau jalan pagi di Kebun Raya Bogor yang terkenal.
En français.
En outre de se détendre, je veux me promener au Jardin Botanique Célèbre Kebun Raya Bogor.
Saya juga mau berwisata kuliner.
Saya juga mau berwisata kuliner.
En français, je veux aussi faire le tourisme culinaire.
Kuliner apa yang terkenal dari Bogor?
Kuliner apa yang terkenal dari Bogor?
En français, quels repas sont célèbres à Bogor?
Banyak sekali, seperti soto mie, soto kuning, dan asinan.
Banyak sekali, seperti soto mie, soto kuning, dan asinan.
En français, il y a beaucoup, comme la soupe de nouilles, la soupe jaune et des cornichons.
Bagaimana kalau kamu ikut saya?
Bagaimana kalau kamu ikut saya?
En français,
si tu venais avec moi?
Baiklah, saya akan mencoba mencari hotelnya.
Baiklah, saya akan mencoba mencari hotelnya.
En français,
d'accord, je vais essayer de trouver un hôtel.
Senang sekali kalau kita bisa pergi bersama.
Senang sekali kalau kita bisa pergi bersama.
En français,
je suis heureux si nous pouvions aller ensemble.
Bon, chers amis, c'était Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que ce programme soit utile pour vous. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Pour cette édition, je présenterai des chansons pop chantées par Opi Saka et Dan Faturahman. Bon, chers amis, vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 925 kHz ou bien en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par application sur RRI Play. Maintenant, nous introduisons le premier chanteur religieux qui s'appelle Opi, Aunur Rofiq Lil Firdaus, au mieux connu sous le nom de Opi, est un compositeur et chanteur des chansons religieuses. Bon, chers amis, on écoutera la première chanson de Opi intitulée « Solu ala Muhammad ».
Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.
Bila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman.
Bila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.
Bila jiwa jauh dari Al-Quran,
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée « Solu ala Muhammad » chantée par Opie. Dans les années 90, il a commencé sa carrière musicale en formant un groupe de musique appelé Timor Band. Le membre de ce groupe est les amis de Opie à Jember, Java East. Opie est l'un des chanteurs et compositeurs des chansons religieuses islamiques. Bon, chers amis, voici la deuxième chanson de Opie intitulée Salam ya Rasulullah.
Terakhirmu umatku, umat. Salam ya Rasulullah, album saya yang ke-8.
Musik kutelah buah di Indonesia, di Fuzer Debu Jakarta dalam program musikal. C'était la chanson intitulée Salam ya Rasulullah, chantée par Opi. Maintenant, nous présentons d'autres chanteurs religieux qui s'appellent Dang Fatur Rahman. Il ne peut pas être séparé de la musique et le monde du soufisme. En 2001, il a lancé son premier album intitulé Tazakuris Jaman. Cet album a reçu le prix au Festival de musique soufisme au Maroc en 2001. Dang Fatur Rahman a été invité par la communauté de Tassawuf du Canada pour être impliqué dans le Festival soufisme canadien dans ce pays. Chérami, écoutez maintenant les deux dernières chansons intitulées Madah Rasul et Al-Nafidatul Kulub. Tous les deux sont chantés par Dang Fatur Rahman. Merci à tous et à bientôt.
Pendosa hina ini Zaman-zaman telah berlalu, izinkanlah hamba berkhidmat kepada-Mu. Izinkan hamba yang hina ini
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.